Code d'économie.
Des tonnes de riz pour animaux frauduleusement réconditionnés et vendus comme riz de consommation humaine. À Bounia, l'inspection provinciale de la santé en Ituri dénonce cette fraude grave. Mwanda, une cité côtière pleine de potentiel, riche en ressources naturelles, mais où les défis économiques tels que l'absence d'infrastructures adaptées et les difficultés bancaires freinent le développement local. Nous en parlons tout à l'heure avec Alain Hiroung. Bienvenue à tous. Plusieurs tonnes de riz impropres à la consommation ont été saisies sur le marché local à Bounia. L'inspection provinciale de la santé accuse certains opérateurs économiques d'avoir changé les emballages de ce riz impropre de l'Ouganda et destiné uniquement à la consommation des animaux de la basse cour. L'inspecteur provincial de la santé explique au micro de Sadiki Aboubakar.
Les denrées alimentaires qui sont impropres à la consommation sont vendues au vu de tout le monde. Nous avons mis la main sur une gargaison de riz destinée à l'élevage des poulets et on est en train d'échanger dans les sacs que le consommateur préfère, les sacs Elo et sacs Sebo, des couleurs bleues. Les riz de consommation pour les aliments, vous allez voir qu'il y a beaucoup de débris, des déchets, des écorces et ce n'est pas bien traité. Bon, il y a tout dedans, il y a l'odeur qui est un peu particulière par rapport à l'odeur normale. Ça ne le rêve pas de la consommation humaine. En tant qu'OPJ, j'ai mis directement les scellés dans une de ces portes, mais ils ont arraché les scellés et déchiré. Et j'ai communiqué seulement au parquet et je leur ai donné les dossiers. Vous savez que quand le parquet a les dossiers, l'officier de procédure judiciaire est saisi.
Toujours en Ituri, plusieurs tronçons routiers ainsi que des ponts jetés sur des rivières dans la chefferie de Walindou Bindi, dans le territoire d'Irumu, sont désormais dans un état de dégradation très avancé. C'est le responsable de la société civile du groupement Baviba qui tire la sonnette d'alarme. Cédric Zalo cite plusieurs axes où les routes sont impraticables, rendant difficile le trafic des personnes et des marchandises. Les prix de plusieurs articles ont galopé sur les marchés locaux. Un extrait de ses propos choisi ici par Jean-Claude Lokidile.
Une bouteille d'huile de palme qui se vendait à 2000 francs se négocie entre 4000 et 5000 francs. Une barre de savon passe de 2000 à 3000 francs. Un litre d'essence passe de 4000 à 5000 francs. Pas d'accessibilité d'entrée et sortie des produits agricoles et des marchandises. La longue durée mise par les engins roulant pour atteindre la destination. Ah, bref, tout cela crée la pauvreté au sein de la communauté. Nous interpellons la conscience des gouvernements central ou provincial afin de s'impliquer urgemment dans la réhabilitation des routes, des dessertes agricoles pour fournir les recettes et aider à titre territorial décentralisé et faciliter l'accessibilité dans les différents centres commerciaux, dans les groupements Baviba, car la vie de la population est en danger.
Mwanda, une cité côtière aux grandes ressources, mais aux défis économiques criants. Pour en parler, je reçois dans ce studio mon collègue Alain Hiroung, qui dresse un portrait préoccupant des réalités économiques et sociales de la ville côtière de Mwanda au Congo central. Bonjour Alain.
Bonjour Jocelyne.
Vous revenez d'un voyage de la cité côtière de Mwanda au Congo central. Quel constat avez-vous fait des activités économiques?
Oui, déjà Jocelyne, il faut dire que le voyage était très long. Très long voyage de près de 13 heures à 15 heures si vous ne trouvez pas des embouteillages au niveau de Matadi. C'est l'équivalent de quelqu'un qui va de Kinshasa à Bruxelles, aller-retour pratiquement. Alors, mais on arrive à Mwanda autour de 22 heures. On quitte Kinshasa à 8 heures, on arrive autour de 22 heures. Mais imaginez qu'à cette heure-là, il n'y a pas de restaurant. Il n'y a pas un restaurant où on peut manger quelque chose rapidement.
Ou grignoter carrément des
grillades. Carrément. Bon, ça m'a paru assez bizarre dans une cité dont on a souvent entendu parler à côté de l'océan, mais que ça ne puisse pas exister.
Avec beaucoup de variétés de poissons, beaucoup d'espèces.
Mais oui, est-ce que vous pouvez imaginer, par exemple, que Mwanda, cité du poisson, mais n'a pas d'endroit spécialement dédié où l'on peut manger le poisson à toutes les sauces, comme c'est un peu le cas ici quand on arrive à Kinshasa, à Kinkolé.
À Kinkolé ou sur la route tourisme.
Par exemple.
Et puis, pas de terrasse, vous avez dit.
Bon, j'ai jeté un coup d'œil un peu dans le Mwanda by Night. Quelques terrasses par-ci, par-là, où on entend une forte musique, mais quand on s'approche, très peu de gens, et pas pas de des choses à grignoter non plus. Mmh. On sent quand même une certaine lourdeur sur le plan économique
pas,
à Mwanda.
Pas rien à manger, pas de boisson non plus.
Boisson,
juste la musique.
Boisson, oui, mmh. musique, mais très peu de gens dans les terrasses, mais mmh. vous ne mangez rien.
Mais qu'est-ce que cela pourrait traduire selon vous?
Selon certains autochtones qui nous accompagnaient évidemment, il semblerait que l'argent ne circule pas vraiment dans la cité de Mwanda, bien qu'en face de l'océan, mmh. on ne sent vraiment pas l'engouement autour de cette richesse, mmh. et il semblerait que la ville vit un peu mieux mmh. lorsque les employés ou les agents de la compagnie pétrolière, mmh. notamment Perenco, pour ne pas la citer, mmh. sont payés. C'est à ce moment-là qu'on sent une certaine effervescence dans la ville.
Alain, pour terminer, qu'en est-il des transactions bancaires?
Les transactions bancaires, encore, c'est très compliqué. Imaginez qu'on devait faire une transaction bancaire, Jocelyne. Mmh. Le jour où on va à la banque, il avait plu. On arrive dans une agence d'une banque de la place. Ces jours-là, ils n'ont pas travaillé parce qu'il avait plu. On va dans un autre endroit, il n'y avait pas de connexion. Et malheureusement, nous avons dû faire Mwanda Boma. C'est 1h30. D'une ville à une autre. 1h30 en voiture, aller-retour, 3h30 pour faire une transaction bancaire, vous imaginez.
Et si on est dans l'urgence
Et si on est dans les urgences, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Mais je pense que Mwanda, c'est une ville qui a de l'avenir. Mm. Mais il faudrait qu'il y ait un peu plus d'entrepreneurs qui viennent, qui ouvrent des marchés, qui ouvrent des supermarchés, qui amènent diverses activités économiques. Mm. Mais c'est vraiment une cité qui a de l'avenir.
Et espérons que ces observations, Alain, inciteront les autorités et même les opérateurs économiques à réfléchir aux moyens de mieux exploiter ces richesses locales pour améliorer la vie des habitants et de faire de Mwanda un joyau côtier. Merci beaucoup Alain pour ce témoignage.
Merci Jocelyne, je l'espère autant vivement.
Écho d'économie.
Le ministre national de l'Industrie a clôturé mardi sa mission à Bunia. Durant son séjour de 4 jours, Louis Watum et sa suite ont échangé avec différentes couches de la population, principalement sur l'entrepreneuriat. Que retenir de cet échange? Le député national Gracien Irachan, membre de la commission économie et finances à l'Assemblée nationale, qui faisait partie de cette délégation, s'entretient ici à ce sujet avec Jean-Claude Loukidile.
Gracien Irachan, bonjour.
Bonjour messieurs les journalistes. Vous êtes de la suite de la délégation du ministre national de l'Industrie. Que retenez de votre séjour, bref, bien sûr en Ituri? Vous avez été à Bunia, Aru et Amagi.
À Bunia, le message est clair. Il faut que les gens commencent à entreprendre. C'est très important. Et les gouvernements aussi accompagnent les entrepreneurs. Ça, il faut le dire parce que il y a des fonds qui existent, dont FPI et d'autres fonds pour la jeunesse, la génération future et quoi, tout ça, où on peut entreprendre. Souvent, nous, en Ituri, nous sommes un peu en retard pour ne pas penser à entreprendre et nous pensons qu'il y a des obstacles. Non. On peut faire quelque chose et on peut réussir. Nous sommes allés à Aru, par exemple, où nous avons visité des usines financées par FPI, par la République. Et vous voyez, on produit des savons, on produit de l'eau, on produit, je ne sais pas, des vins, on produit, je ne sais pas, des sucrés. Et ça, c'est quelque chose qui est vivant, qui existe. Et ça nous fait quand même de l'espoir. Et à Mahagi, c'est la même chose. On a invité la jeunesse de Mahagi à voir clair devant eux pour ne pas penser toujours que... il faut que quelqu'un vienne travailler à votre place. Donc, il faut que vous-même vous puissiez aussi vous lancer. Parce que quand les chefs de l'État parlent des millions d'emplois, mais en fait, il y a aussi des initiatives que nous, en tant que fils du pays, nous pouvons initier et le gouvernement doit financer. Si le gouvernement ne finance pas, alors nous devons jeter la responsabilité sur le gouvernement. Mais si nous avons des entreprises, nous avons des initiatives qui promettent, à ce moment-là, le gouvernement est dans l'obligation. Moi, je me suis intéressé à cette mission parce que je suis de la commission Ecofin et financière et c'est nous qui validons tous les budgets du gouvernement. Donc, je dois être témoin de ce qui est fait sur terrain. Et quand le ministre de l'Industrie va faire la demande, c'est normal que moi, de la commission Ecofin, je me batte pour qu'on puisse garder ces budgets comme tels et qu'on les mette pour le budget 2026 parce que nous venons de terminer avec le budget 2025 où il y aura ces budgets-là pour la RN27. Mais maintenant, il faut aussi d'autres. Donc, nous devons veiller à ce que les jeunes, effectivement, qui puissent être
entreprendre parce que nous sommes en retard. Vous voyez, il y a beaucoup d'activités ici qui se passent. On voit seulement les fils qui ne sont pas de la province de l'Ituri. Maintenant, le temps est arrivé pour qu'on voit quand même des jeunes qui peuvent devenir des millionnaires en Ituri. Et ça, il faut accompagner. Et je vais voir si le gouvernement aura la mauvaise volonté ou non par des actions concrètes que nous allons faire sur le terrain. Donc, si moi j'ai accepté de me déplacer, c'est parce qu'effectivement, il faut accompagner le gouvernement et il faut voir s'ils vont réellement réaliser ça. Et nous, il ne faut pas qu'ils disent que c'est nous qui sommes responsables de notre échec. Donc, on va oser, on va tenter et après, on fait les bilans. Mais donc, c'est comme ça.
Vous n'êtes pas nouveau dans ce secteur, Gracie Rantian. Vous savez combien si la population accuse le même gouvernement quand vous entreprenez une activité commerciale, quand vous commencez à émerger, mais vous êtes mitraillé, bombardé des taxes, impôts, des services qui passent, qui circulent matin, midi, soir et puis vous tombez en faillite. Ça aussi, ça démotive justement des jeunes gens, comme vous le dites, qui veulent entreprendre.
Cette question a été soulevée et à Bounia, et à Arou, et à Mahagi. Ça veut dire que c'est un problème sérieux où il y a tracasserie économique, effectivement. Le drame, c'est quoi? Le malheur est que même cet argent qu'ils sont en train de percevoir dans les PME, dans les petites entreprises et moyennes entreprises, cet argent ne rentre même pas dans la caisse de l'État. Parce que normalement, nous, population, on devrait chaque fois demander à ceux qui viennent percevoir l'argent quel est le soubassement, le texte qui vous permet de percevoir cet argent, mais aussi donnez-nous la note de perception pour qu'on aille verser cet argent à banque. Donc, nous aussi, on ne respecte pas ça. C'est comme ça, nous donnons l'argent. On préfère frauder ou tricher, prendre un peu l'argent de l'État, disant que non, bon, si c'était par exemple $100, je vais payer 20, mais ça rentre dans ta poche. Donc, nous tuons doublement l'État. Donc, il faut demander à ce que ces gens, parce que la plupart de ceux, ils viennent avec des textes qui n'existent pas ou des textes qui sont faux, qui sont mal calculés et ça fait en sorte qu'il y ait des problèmes. Donc, ça, c'est un problème vrai. D'ailleurs, dans la stratégie actuelle de mobilisation des recettes avec les ministres des Finances, nous sommes en train de réfléchir comment on peut redynamiser les PME pour que cet argent aille effectivement dans les trésors publics pour aider les budgets de la République à pouvoir faire de bonnes choses. Et c'est à cela que nous, de l'Ituri, on peut réclamer des réalisations quand on réalise plus de recettes, parce que sinon, les recettes parfois passent inaperçues. Et c'est ce qui est grave, parce qu'il y a beaucoup de détournements.
Sans peine, il n'y a pas de développement. Qu'est-ce que vous voulez dire à cette occasion de votre mission à l'Ituri? Parce qu'il y a des gens qui continuent à détenir les âmes et l'Ituri continue à stagner, à ne pas progresser. Quel message de paix et d'espoir peut-être que Gracie Rachian que pourrait réaliser?
Vous savez ce qui se passe en Ituri aujourd'hui, c'est souvent des jeunes qui sont en train de s'enrichir illicitement avec les armes. Parce que les armes ne peuvent jamais aider pour le développement. Jamais alors. Et donc j'appelle mes frères ituriens à déposer les armes. J'aurais aimé que les jeunes eux-mêmes déposent les armes et ils rentrent faire les activités des champs. Ils se transforment à des ambassadeurs de la paix. Ils commencent à arrêter ou à interdire les autres collègues, leurs frères d'armes qui sont en train de faire les désordres. Et ça, nous allons en tout cas avoir des retombées positives.
Merci Rachel, je vous dis merci.
Merci.
Fin de cette émission. Clément Chimanga était à la prise de son. Jean-Noël Mokondo à la mise en onde. Merci de l'avoir suivi.